Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission de Plus de Vie. Aujourd'hui, j'ai à cœur de prendre avec vous un texte dans 1 Samuel au chapitre 17. C'est l'histoire, la fameuse histoire de David et de Goliath. On va regarder à ce récit biblique. C'est plus qu'une histoire, c'est un récit biblique. On va regarder à ce récit et puis on va essayer d'en tirer, bien sûr, des choses pour notre propre vie. Je vais juste commencer aussi à prier, à remettre ces moments d'écoute au Seigneur Jésus entre ses mains. Merci Seigneur, c'est vrai, de vouloir nous bénir encore aujourd'hui, de permettre qu'on puisse se pencher encore sur ta parole. Merci pour cette radio, fait que tout ce qu'elle contient, tout ce qui est diffusé, puisse servir à notre édification, à notre croissance et aussi à notre bonheur, à notre paix. Donne-nous de trouver des clés ensemble et de marcher vers toi, vers la lumière, toujours un peu plus. Que ton nom soit glorifié pour tout Seigneur. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 17, et à partir du verset 1, alors le récit de David et Goliath va jusqu'au chapitre 18, c'est tout le chapitre 17 en fait. Alors j'ai sélectionné quelques versets qui sont l'essence de cette histoire, de ce récit, et je vous invite à lire tout le chapitre ensemble, ou personnellement, mais moi j'ai sélectionné que quelques versets pour pouvoir ne pas prendre trop de temps, et pouvoir nous pencher sur quelque chose d'essentiel, sachant qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir à chaque fois en se repenchant sur chaque texte. Je lis. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il avait une taille de 6 coudées et 1 empan, plus de 3 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois et sa lance étaient comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe son père le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. David courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Et on peut dire Amen. Ce texte est incroyable, il me donne vraiment de la force. Quand je le lis, j'ai l'impression de sortir d'un bon film, vous savez, où il y a eu vraiment une histoire passionnante. Je suis vraiment passionné par ce texte parce que il est encourageant. Ce texte nous raconte quoi ? D'abord, il nous raconte qu'il y a un combat entre le peuple de Dieu, Israël, et les Philistins qui étaient là et qui occupaient Canaan à l'époque où Dieu avait promis de donner le meilleur territoire à son peuple. Ces Philistins étaient là et ils attaquaient les Israélites régulièrement. Et puis à un moment, il y a cette bataille. Il nous est parlé d'une des batailles de ce grand combat. Et je voudrais juste nous rappeler encore aujourd'hui qu'il y a un combat. On est dans un monde où il y a un combat entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable, entre le peuple de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus, qui lui ont donné leur vie, qui ont reçu le salut auprès de lui, et cette mentalité du monde qui s'oppose à l'évangile, qui s'oppose à la Bible, qui s'oppose aux valeurs chrétiennes, et c'est un combat qui est là. Alors la Bible nous déclare, et je veux le rappeler quand même, que justement, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. On n'a pas à s'entretuer entre hommes à cause de notre foi ou de notre religion. On a à s'aimer. Et d'ailleurs, le combat de l'évangile, c'est l'amour, le combat de l'amour. Mais il y a quand même un combat avec les puissances des ténèbres. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, dit Paul, mais un combat contre les puissances des ténèbres. Le diable continue dans le monde à insuffler sa haine, sa violence, la querelle, l'égoïsme, toutes ces choses comme ça qui font que les hommes se détruisent eux-mêmes et se détruisent les uns les autres. Il y a un vrai combat. Et peut-être que dans votre vie, vous êtes face à un combat. Vous voulez faire le bien, vous voulez plaire à Dieu, mais vous êtes face à cette lutte où il y a comme une armée qui se dresse dans votre cœur et qui est là et qui vous pousse vers le mal. Comment vous allez être victorieux ? La suite de ce texte nous montre que la victoire n'est pas remportée avec des armes humaines, avec des méthodes humaines. Ce n'est pas avec la lance, le javelot, va dire David, que je vais remporter la victoire. Mais je vais la remporter parce que moi je viens au nom de l'Éternel. Et David a un refuge. Il a quelque chose qui lui donne de la foi, qui lui donne de l'espoir, qui lui donne de savoir qu'il va triompher, de ne pas avoir peur face à l'ennemi qui se dresse devant lui, ce géant qui dépasse tout ce qu'on a vu avant, qui effrayait toute l'armée d'Israël, tous les autres. Lui, il avait la différence, il avait quelque chose, il avait le nom de l'Éternel. Et il n'est pas venu pour dire « oui, tu as insulté juste l'armée ». Il dit « tu as insulté l'armée de l'Éternel ». Et tu t'en es pris, tu as insulté le nom de l'Éternel. En fait, ce qui motive David, c'est pas sa propre gloire, sa propre fierté ou la fierté du nationalisme. Non, ce qui motive David, c'est la renommée de son Dieu. Il voulait qu'on sache que son Dieu était plus fort que tous les ennemis et toutes les autres armées qu'il y avait dans le monde. Et qu'au nom de l'Éternel, la victoire pouvait être remportée. Et c'est toujours pareil dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Si jamais on veut honorer Dieu et que ce soit la renommée de Dieu qui soit élevée, eh bien alors Dieu va être avec nous et on va remporter des victoires les plus improbables, les plus impossibles. Par contre, si on veut notre propre gloire, notre propre réussite pour être fiers de nous-mêmes et que les gens nous fassent plein de flatteries, alors Dieu ne sera pas dans l'affaire et on va se retrouver avec plus fort que nous, tout simplement, parce qu'il y a toujours plus fort que nous. Sauf que en Dieu, si c'est vraiment sa renommée qu'on veut voir être élevée, si on veut vraiment être quelqu'un qui, lorsqu'on regarde à sa vie, eh bien on puisse dire, ça c'est une personne qui a honoré Dieu, qui avait des valeurs, qui avait quelque chose de différent que les gens de ce monde, alors Dieu va être là et il va vous donner la victoire. Tout à l'heure, j'étais avec une personne en entretien et elle me disait, voilà, j'avais prié pour vivre cette chose dans ma vie et ça avait marché. Sauf que depuis de quelques temps, eh bien, ça ne marche plus. C'est comme si je revenais en arrière, comme si je perdais la bénédiction que Dieu m'avait donnée. J'ai posé une simple question à cette personne. J'ai dit, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous continuez à prier? Est-ce que vous continuez à lire la Bible? Est-ce que vous continuez à chercher à honorer Dieu dans votre vie? Et j'avais vu, en fait, cette personne qui, pendant une réunion, avait pris son téléphone portable et avait joué à des jeux vidéo sur son téléphone portable pendant la réunion. Alors, je suis pas là pour juger, attention. J'ai pas envie de faire le policier comme ça ou de critiquer. C'est juste pour vous montrer ce qui était l'essence de notre discussion. J'ai dit, voilà. On fait ce qu'on veut. Pour moi, les gens sont libres. Et chacun fait ses choix. Et dit, moi, je veux rien vous imposer. Je suis pas un gourou. Mais en tant que pasteur, je dois vous dire quelque chose. Si vous commencez à prendre à la légère le fait d'aller dans une église, dans un lieu qu'on appelle la maison de Dieu. Si vous prenez à la légère ça, si vous venez en jouant aux jeux vidéo pendant que les autres y prient, si vous commencez à avoir de la légèreté dans votre cœur et que vous ne voulez plus réaliser qu'on est là pour honorer Dieu, aller ensemble, vivre une vie qui le glorifie, qui honore le Père céleste que nous avons et quel Père merveilleux. Alors comment on peut espérer que Dieu puisse répondre à nos soucis, nous donner les victoires dans les combats que nous avons. Et nous avons tous des combats. Combat contre la maladie, combat contre l'esprit de la société, les choses comme ça. Des combats différents, peut-être combat dans un foyer, combat dans l'éducation de nos enfants, combat dans notre propre cœur avec des addictions, des penchants, des pensées qu'on sait être mauvaises et déplaire à Dieu. Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire si d'un autre côté, on n'honore pas Dieu dans notre vie, on ne veut pas que le nom de l'Éternel soit sanctifié? Je crois que c'est important et ce texte nous rappelle ça. La force de David, ça a été ça. Il a pris une pierre alors qu'il en avait choisi cinq dans le torrent. Ça me montre que David ne s'est pas appuyé sur son expérience. Il ne s'est pas dit « je suis un tireur d'élite de la fronde, j'ai l'habitude, je terrasse le lion et l'ours, donc moi je sais faire ». Non, David a pris cinq pierres, même s'il ne lui en a fallu qu'une. Et en plus, le reste de la Bible nous montre que dans la vie de David, il y allait avoir cinq géants. Il y avait Goliath et il y avait des frères et d'autres géants, quatre autres, qu'il va combattre ou que son armée va combattre durant sa vie lorsqu'il sera roi. Ça veut dire quoi? Que dans son habitude de faire des réserves, dans son réflexe de faire des réserves, non seulement il ne s'appuyait pas sur son expérience, au cas où il en avait plus, et en même temps, ces réserves qu'il faisait aujourd'hui lui ont servi pour demain. Et spirituellement, c'est très important de faire attention à tout ça. Il ne s'est pas appuyé sur ses expériences avec une fronde, l'arme d'un homme de la préhistoire, d'un chasseur ou d'un berger. Il va terrasser un homme de guerre depuis son enfance, un homme de 3 mètres, un homme qui avait des mensurations incroyables. Cet homme, David, a pu terrasser le géant, l'ennemi, parce qu'il avait la foi. Il ne s'appuyait pas sur ses expériences, il faisait confiance en Dieu et il s'intéressait plus à la renommée de Dieu qu'à sa propre renommée à lui. Et le Seigneur l'a élevé ensuite. Ça a été un roi selon le cœur de Dieu, parce qu'il avait une mentalité qui était conforme à la mentalité de Dieu. Où est-ce qu'on veut aller dans notre vie? Est-ce qu'on veut vivre des victoires? Est-ce qu'on veut résister aux méchants, résister à l'ennemi de nos âmes, résister à cette mentalité, cette foule de pensées qu'il y a dans le monde qui va à l'opposé de la pensée de Dieu. Ce texte m'encourage, me dit que pour ceux qui voudront honorer le nom de Dieu, eh bien Dieu confirmera sa parole et sera avec nous dans le combat et nous donnera des victoires incroyables que d'autres ne pourraient obtenir par leurs propres moyens. Que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui. Soyons courageux, soyons pleins de foi et que Dieu soit honoré dans chacune de nos vies. À bientôt, à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde.